Cette semaine à la vie en BD, les confessions d'une femme normale d'Héloïse Marseille. Ici Raymond Poirier, bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Toujours un plaisir, évidemment, de parler 9e art et de plonger avec vous dans l'univers de la bande dessinée. Et cette semaine, on va aller creuser une bande dessinée qui essentiellement m'a échappé complètement. En fait, je l'ai rattrapé en fin d'année dernière, en début de cette année, en fait. Donc, c'est quand même relativement récent, mais c'est sorti depuis genre avril dernier. Et une bande dessinée qui nous amène donc dans l'intime, dans l'intimité d'Héloïse Marseille, donc une autrice qui a choisi de raconter son expérience sexuelle à travers, dans le fond, ce témoignage-là, de décomplexer peut-être une certaine parole, de décomplexer peut-être une relation avec la sexualité, avec les tabous de cette sexualité-là et avec la honte qu'on pourrait ressentir autour, justement, de cette relation-là comme telle. Donc, les complexes et le reste. Donc, ça reste un beau sujet, un sujet qui n'a pas été tant traité non plus. Il y a quelques livres qui vont s'y intéresser de différentes façons. Et je pense que on va pouvoir, justement, au fil de la prochaine heure, explorer un peu l'approche visuelle, explorer l'approche narrative, explorer la relation qu'on entretient avec l'objet livre versus la réalité. Donc, bref, On va, je dirais pas décrypter, mais on va explorer. Allons-y plutôt comme ça. Donc, l'univers des confessions d'une femme normale avec son autrice. Alors, c'est ça le menu cette semaine à La Vie en BD. Héloïse Marseille, bonjour.
Bonjour.
Alors, d'entrée de jeu, Confession d'une femme normale, c'est ta première BD et pour te lancer, tu ne vas pas avec le dos de la cuillère, comme on dit, tu décides de te raconter toi, mais de le faire dans ton intimité et l'intimité soulignée en caractère gras, puisque tu y fais, au bout du compte, l'histoire de ta relation avec la sexualité, de ta jeunesse, de ton premier baiser à 6 ans jusqu'à, pourrait-on dire, un peu ta mi-vingtaine. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer en BD, en format album, avec justement un récit comme ça? Et qu'est-ce qui t'a donné envie peut-être, au bout du compte, de te raconter comme ça?
Quand j'ai commencé ce projet-là, moi, je pensais vraiment pas, c'était plus un exercice que je faisais. Puis je pensais pas, first of all, que ça soit aussi long. À la fin, ma BD a 150 pages. Puis moi, je pensais que ça allait être un truc de comme 20-25 pages, plus un format zine. Et aussi, je pensais jamais que ça allait être publié. Moi, je pensais vraiment que ça allait juste être pour le plaisir. Puis finalement, je l'ai fait lire à beaucoup de personnes que je connais puis qui m'ont fortement encouragé à l'envoyer à des maisons d'édition. Mais en gros, moi, je fais de la BD un peu depuis toujours. Puis je pense que par réflexe, je parle de moi dans mes BD parce que c'est plus facile que d'inventer des histoires. Puis je pense que c'est peut-être vu que ça fait tellement longtemps que je dessine que c'est presque un peu thérapeutique pour moi de parler de ma vie par des BD, quasiment comme si c'était un peu un journal intime, genre. Puis c'est un peu... je sais pas, genre, je sais que le sexe, c'est comme très tabou comme sujet, mais je pense pour moi, c'est pas tabou, c'est juste vraiment drôle et comme vraiment intéressant. Puis que c'est vraiment un truc que tu peux tellement apprendre sur les gens, puis qui en dit tellement sur les gens. Puis je pense que c'est juste, c'est comme... I guess, je voyais ma BD un peu comme quand t'as genre une soirée avec tes amis, puis là t'as comme 2 verres de vin, puis tu commences à parler de comme... de sexe, puis là ça va... Là, une histoire va mener à une autre histoire de quelqu'un d'autre, puis j'ai l'impression que c'est les conversations les plus hilarantes et drôles, et en même temps, vraiment pertinentes, puis vraiment intéressantes, parce qu'à la fois que tu peux... virer genre dans l'humour et dans l'absurdité du sexe et genre des non-dits et des règles non écrites du sexe, autant que tu peux rentrer dans des sujets comme qui témoignent de notre société, genre des sujets vraiment sérieux, genre comme les relations, pas les relations sexuelles, genre ton orientation sexuelle ou comme les faux pas sexuels ou genre le consentement, qu'est-ce qui est du consentement, qu'est-ce qui n'est pas du consentement, je sais pas. C'est juste...
Oui, un moment où tu arrives où la parole devient un peu décomplexée, si on peut dire, parce que sinon, ouais. Tu disais, ça reste tabou, donc si des fois on se lance un peu sans préparatif particulier, ouais. Il y a toujours une gêne à parler de ça. Et au contraire, dans le fond, ce qu'on comprend aussi en lisant le récit, c'est que je veux dire, si on est un peu moins complexé par rapport à ces réalités-là, peut-être que la vie serait plus facile au final aussi.
Ah mon Dieu, tellement, tellement. Mais je pense que c'est juste pour moi, le sexe, évidemment, ça dépend avec qui j'en parle. Je ne pourrais pas juste parler de ma vie sexuelle avec n'importe qui, mais je pense d'avoir un livre qui me sépare entre moi et des gens, ça fait que je suis vraiment pas gênée parce que c'est un peu comme quand je l'écrivais, c'était un peu un dialogue personnel que je me parlais à moi-même. Puis je sais pas pourquoi, c'est drôle, mais l'idée que des inconnus le lisent m'a jamais dérangée. Ou que ma famille le lise, ça m'a jamais, jamais dérangée. Mais je pense parce que toutes les histoires que je raconte, c'est des histoires avec lesquelles j'ai fait la paix, autant que ce soit des trucs hyper pathétiques qui me sont arrivés, autant que ce soit des trucs traumatisants ou des histoires où j'ai l'air vraiment niaiseuse. En tout cas, c'est toutes des histoires que j'ai vraiment fait la paix avec. Il y a beaucoup d'histoires que j'aurais pu raconter que je pense qui auraient été vraiment pertinentes, mais que j'ai choisi de ne pas en parler parce que je pense que ça aurait peut-être été un peu traumatisant à partager avec genre le grand public de la
bande. Ouais, à un moment donné, il y a une ligne qui finit par se tracer quand même en des trucs que ah oui, ça, je suis game, ça va, il n'y a pas d'enjeu, mais il y a d'autres trucs où là, peut-être, je n'irais pas parler d'autocensure, mais peut-être d'une préoccupation, d'une sensibilité particulière pour OK, ouais. C'est ça, oui, ça, peut-être un peu moins. Ouais.
Ben, tu sais, je pense, tu sais, un des thèmes principaux de mon livre, c'est la honte. Mm-hmm. Et un truc que beaucoup de ces événements-là que je raconte ont en commun, c'est que j'avais vraiment honte pendant que ça arrivait ou j'avais honte après que ce soit arrivé. Et je pense que la différence entre ce que j'ai raconté et ce que j'ai pas raconté, c'est que tout ce que j'ai raconté, j'ai plus honte. Et tout ce que j'ai pas raconté, c'est que j'ai encore honte. Fait que je suis pas capable d'en parler. Puis je trouve ça... Je pense que c'est vraiment ça la différence, que c'est comme... Tu sais, je m'en fous, là, genre, il y a une histoire où c'est genre, au cégep, j'ai pogné un doute, puis il a comme saigné du nez sur moi, il était comme par-dessus moi, puis il a saigné du nez sur mon corps nu. Tu sais, c'est juste, c'est full comme gênant, mais en même temps, c'est tellement drôle. Et tu sais, c'est juste cette histoire-là, vraiment, je m'en fous que tout le monde la connaisse. Puis même, parenthèse, quand même drôle, il y a beaucoup de gens en salon du livre qui m'ont dit que genre, c'est un truc qui arrive, genre. Comme il y a une fille, une fois, qui est venue me voir, qui m'a dit « Hey, moi, mon chum, ça y arrive tout le temps. Genre, il me saigne du nez dessus quand on fait l'amour. » En tout cas, parenthèse, j'ai trouvé ça vraiment drôle parce que moi, je pensais que c'était hyper unique comme expérience.
Finalement, non, c'est universel.
Non, mais il y a, genre, je pense, 2-3 personnes qui m'ont dit genre « Oh my God, genre, moi aussi, ça m'arrive. » En tout cas,
fin oui, de la parenthèse. Ça devient une expérience particulière parce que tu ouvres la porte sur les salons du livre. Si tu disais d'entrée de jeu... Ouais. Tu l'as fait en disant ça va être des inns, je veux dire, ça va être une diffusion un peu limitée. Finalement, ça se retrouve diffusé à la grandeur ouais. du Québec et au-delà. Donc, donc j'imagine qu'à la rédaction, tu n'avais pas la préoccupation de il y a genre 1000, 2000, 5000 personnes qui vont lire, c'est 20, ouais. 30, mes chums. Là, finalement, tu arrives dans une grosse diffusion. J'imagine que ça t'a permis justement aussi peut-être d'aller un peu plus loin ou ça a facilité le processus de ne pas avoir le poids de l'édition avec un E majuscule.
Honnêtement, peut-être. Honnêtement, peut-être, mais je sais pas, je pense, parce qu'aussi hors de comme ce roman graphique-là, ça fait 5-6 ans que j'ai un compte Instagram où j'ai quand même beaucoup de followers, où je fais des slice of life, puis que ça fait vraiment longtemps que je parle, puis tu sais, ça c'est beaucoup genre ma vie personnelle où je parle de sexualité, fait que je pense que ça m'a peut-être préparée mm-hmm. à juste full parler ouvertement de ma vie et de moments super intimes. Puis des fois, j'avais des posts qui avaient genre des dizaines de milliers de likes puis des centaines de commentaires. Puis tu sais, c'était comme une histoire hyper personnelle sur ma vie sexuelle. Fait que je pense que ça m'a beaucoup préparée. Et je pense que j'avais déjà vu la réponse d'un public ouais. à ce genre de contenu-là. Puis ça a toujours été une réponse genre écrasante, positive. Genre vraiment comme... Ou les commentaires négatifs, c'était des trucs tellement que moi, je trouve que c'est tellement absurde que ça m'affecte pas du tout. C'est comme des gens qui chialaient parce que je dessinais mes personnages avec des poils sur les jambes ou avec genre beaucoup de poils pubiens. Puis tu sais, c'est juste, moi, c'est, hey, genre...
Il y a vraiment, parenthèse, il y a vraiment des gens qui vont focusser là-dessus.
Ah, ben oui, ben évidemment, là, surtout sur Instagram, là. Oh non, non, genre... Fait que tu sais, c'était les seuls commentaires négatifs qu'il y avait, moi, je trouvais que c'était tellement cave, pardonnez mon français, que je m'en foutais et ça m'affectait vraiment pas. Puis je pense aussi, je sais pas, je suis quand même une personne qui a beaucoup confiance en soi, puis qui est très assumée dans qui je suis. Alors, je pense, c'est pas quelque chose qui me faisait vraiment peur. Puis j'étais comme, bah, au pire, les gens vont pas aimer ça, mais ça veut pas dire que ma vie sexuelle est pas valide, ça veut pas dire que moi, je suis pas valide. Genre, eux, tout ce qu'ils ont, c'est une adaptation, ou c'est une adaptation de ma propre vie. Tu sais, c'est pas, je sais pas comment expliquer que les histoires sont toutes vraies, l'ordre des histoires est vrai, puis tu sais, toutes les personnes qui sont dans mon livre existent, mais c'est... ça reste que c'est pas la réalité parce que ça passe par le filtre de mon cerveau. Fait que genre...
Oui, par le cerveau puis de la BD, parce que veux pas, oui. C'est Loïse Marseille dans le livre, c'est le personnage BD, Loïse Marseille, qui est basé sur la vraie, c'est basé sur ta vraie vie, mais ça reste qu'à un moment donné, il y a des trucs qui sont drôles, qu'on pousse un peu plus, il y a des trucs qui sont... on fait de l'effet aussi là-dedans.
Mais oui, pas. Exactement. Puis tu sais, au final, t'aurais... genre, c'est full un bon point que tu dis que, dans le fond, mon personnage dans ma BD, c'est un avatar, là. C'est pas moi, tu sais. Fait que... moi, je me dis, même si ça sort et que sur Goodreads, je vois plein de reviews de personnes qui détestent mon livre, mais je pense même pas. Je pense, ouais, ça me ferait un peu de peine parce que c'est genre, j'ai mis tellement de travail, fait que j'aimerais ça que les gens aiment ça, mais je pense pas que ça m'affecterait dans mon amour propre parce qu'au final, s'ils aiment pas cette histoire-là, c'est pas mon histoire. Genre, oui, mais non. Genre, je sais pas si tu comprends.
Oh, en fait, ça permet de garder une distance, puis j'imagine une distance saine parce que. Veux pas, on en revient au point de départ, tu sais, puis tu le dis toi-même dans ton intro, je veux dire, tu te mets littéralement à nu devant le lecteur, tu nous amènes dans ton intimité, puis je pense que ce qui ressort aussi beaucoup du livre, c'est que tu le fais avec sincérité, je veux dire, j'ai pas l'impression que tu donnes le beau rôle, autant que j'ai pas l'impression que tu donnes le mauvais rôle, puis tu t'apitoies, ça reste assez cadré, dans le fond, d'une certaine façon, mais tu sais, je veux dire, ça reste, j'ai l'impression, tu reviens un peu à ce mur-là du livre, mais justement pour te protéger un peu à ça, parce que reste que tu te dévoiles et j'imagine que, tu sais, côté commentaire, je veux dire, on voit ça passer, puis la première réflexion avant de le lire, c'est comme, hey, c'est courageux de faire ça, parce que d'un côté, moi, je le ferais pas, mais de l'autre côté, on dirait que pour la personne qui a vécu des trucs similaires ou pas, mais que des éléments, mais dans le fond, ça je dirais, ça nous conforte aussi. Donc, ton courage cher aux autres aussi, mais c'est, je veux dire, c'est pas évident à gérer, là. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui est capable de gérer un récit comme ça, puis de le tenir, puis d'aller au salon du livre, puis de dire, OK, ces gens-là, ils ont lu mon livre, ils savent bien des affaires sur moi. Moi, j'ai aucune idée c'est qui, ces gens-là, là, tu sais.
Mais je pense, les gens aussi sont, ils ont du gros bon sens, tu sais. C'est comme, pendant mes dédicaces, c'est rare que, comme, quelqu'un va, genre... commencer à parler d'un segment, tu sais, genre, le moment dans ton livre où tu parles de ton premier orgasme avec ton ex.
Oui, ça va être plus des entrevues radio qu'on va faire ça.
Mais tu sais, moi, c'est ça, genre, tu sais, c'est plus dans les entrevues, c'est ça qu'on va plus dans les détails du livre. Mais même là, je sais pas, je pense. Mais ça revient un peu à ce que j'ai dit plus tôt, que j'ai vraiment pas honte de ces trucs-là. Puis même, je pense, j'ai tellement eu aussi une réponse positive à mon livre, puis comme le commentaire que j'ai le plus reçu, c'est autant que, ce qui m'a vraiment surpris, c'est que autant que d'hommes que de femmes, moi je pensais que ça allait être vraiment genre juste des femmes qui allaient lire mon livre, mais que les gens m'ont dit que ça leur a fait du bien à lire, puis qu'ils se sentaient moins seuls. Fait que je pense pour ça, ça me gêne pas parce que je le vois pas. Peut-être je le vois pas. Peut-être que c'est une manière de me protéger aussi, mais je le vois pas comme oh, ces gens ont eu accès à comme une immense partie de mon intimité, c'est plus genre ah oh, les gens se sont sentis full vus par cette certaine ou l'histoire que je raconte. Parce que veux, veux pas, je pense que c'est les grandes lignes, même s'il n'y a pas des événements particuliers qui te sont arrivés, je pense que les grandes lignes de mon livre, c'est malheureusement hyper relatable pour tout le monde parce que je pense qu'il n'y a pas personne qui n'a pas eu honte de leur sexualité, genre. Fait que je...
Oui, puis c'est un peu triste. En fait, il y a des grandes vérités dans ça qu'on amène. Ben, c'est hyper galvaudé, mais tu sais, de dire que plus on parle du personnel, plus finalement, ça devient universel. Puis d'un côté, justement, cette honte-là qu'on partage tous, mais qui fait aussi qu'on n'arrive pas à en parler ou pas en parler sainement ou sereinement non plus, à part quand on a deux verres dans le nez où là, subitement, on est capable de dire les grandes vérités. Mais c'est dommage, au final. Puis ça serait tellement plus facile si il n'y avait pas encore ces tabous-là. Puis des ouvrages comme ça viennent peut-être un peu pousser les lignes de ben justement ce qui est socialement acceptable d'aborder dans un contexte plus ouvert, dans le fond.
Oui. Mais moi, en même temps, je pense, des fois quand j'y pense, c'est c'était comme la suite logique. Faire ce livre-là, c'était la suite logique à mon parcours personnel de ma sexualité. Parce que, genre, dans mon livre, genre, peut-être, I guess, c'est des spoilers, là, mais genre, dans mon livre, je parle qu'à 16 ans, j'ai appris que j'étais stérile et j'ai appris à comme 22 ans que j'avais l'herpès. Puis ces deux événements-là, c'est comme les deux événements où j'ai ressenti la honte la plus terrible de ma vie. Et je pense, puis ce que ces deux événements-là ont en commun, c'est que c'est médical et c'est que il y a comme rien vraiment que je peux faire. C'est pas ma faute, c'est pas la faute de personne d'autre, c'est juste, puis je peux rien faire pour changer ces diagnostics-là. Et que je les gardais vraiment comme des secrets, puis que quand j'ai commencé à en parler à mon entourage, je me suis sentie tellement moins seule, parce que pour l'herpès, c'est, je m'excuse, tout le monde a l'herpès, genre, tu sais, si tu regardes sur Internet, ça dit une personne sur quatre, mais moi, le médecin que j'avais vu à la clinique d'ITS, il m'a dit, ouais, c'est une personne sur quatre qui sont diagnostiquées, mais en fait, c'est plus, genre, trois personnes sur cinq qui ont l'herpès, en tout cas. Puis je pense que c'est juste ça, pour moi, ça m'a tellement fait du bien d'en parler de ces événements-là, puis je pense, le mettre dans ma BD, au début, je t'avoue, j'ai trouvé ça un peu... Je savais pas si je voulais en parler du fait que j'avais l'herpès, mais d'en parler, ça m'a tellement fait du bien. Puis je pense, puis il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit, surtout sur les réseaux sociaux, puis je pense que les gens sont vraiment gênés d'en parler face à face, mais qui m'ont écrit sur les réseaux sociaux, puis qui ont dit « Oh my God, genre je viens d'être diagnostiquée, que j'ai l'herpès, je sais pas qui me l'a donné, j'ai comme... Je me sentais perdue, je pensais que ma vie sexuelle était complètement terminée, que genre j'allais... Je pouvais plus jamais avoir de relation sexuelle avec personne, puis ça m'a... vraiment, encore une fois, fait du bien de lire ton livre, puis que t'en parles sans honte, puis que t'acceptes ça. En tout cas...
Ouais, puis tu joues quand même un peu avec le quatrième mur aussi dans cette séquence-là, sur l'herpès, justement, oui. Où tu fais dire à ta mère, ben j'espère que tu referas pas une BD avec ça, puis finalement, oui. On lit la BD. Donc, il y a quand même justement cette réflexion-là, j'imagine, qui est venue à un moment donné de avec tes parents ou autre, ben justement, OK, je vais amener ça, j'aborde ça.
Et ça, c'est true story, hein, que ma mère m'a dit, on va pas faire de BD là-dessus. Oupsie! Mais je sais pas, c'était vraiment empowering d'en parler. Puis je pense que c'était empowering parce que ça m'a tellement blessée, ce diagnostic-là, puis ça m'a tellement... Le processus d'accepter ça de moi et de genre que je suis... Puis c'est encore quelque chose que je deal avec. Tu sais, j'en parle ouvertement, mais ça reste quelque chose que je deal avec quand même régulièrement, que c'est genre, tu sais, quand on va dire je rencontre quelqu'un, puis là, c'est le temps que genre je dois annoncer que j'ai l'herpès, parce que moi, je suis pas à l'aise de pas le dire. Tu sais, t'as toujours le petit stress de genre, ouh, je vais me faire rejeter parce que j'ai l'herpès, parce que je suis dégueulasse, parce que je mérite pas d'amour. Tu sais, c'est comme une bataille un peu constante, genre de. Mais je sais pas, ça m'a juste fait tellement du bien d'en parler. Oui. C'est vraiment, ça fait sentir puissant. Je pense.
Puis, en fait, tu te parles des batailles un peu comme ça, puis de l'accumulation de doutes au bout du compte qui fait un peu cette masse de honte-là. Tu l'illustres un peu par moment avec justement l'idée d'un boulet que tu traînes qui vient justement miner un peu aussi ta capacité d'entrer en relation ou à un certain point d'approfondir certaines relations et le reste. Parce que le défi, c'est de réussir à rendre ça visuel d'une certaine façon. Donc, il y a des éléments qui sont peut-être plus clairs. OK, je traîne un boulet, je l'amène, ça va. À l'inverse, tu parlais de l'autre grosse séquence, justement, celle où tu apprends que tu es stérile, mais je veux dire, c'est un moment. Surtout que la BD, jusqu'à ce moment-là, ça reste happy-go-lucky, je veux dire, c'est amusant, puis là, oups, OK, tu sais, c'est comme, c'est une tonne de briques dans notre face, qu'on imagine avoir été une planète de briques dans la tienne. Donc, comment on réussit à rendre ça, à amener ça visuellement aussi, sachant que nécessairement, juste à aborder ce sujet-là à ce moment-là, ça va créer un effet, ça va changer le ton peut-être un peu de la BD aussi à ce moment-là.
Je sais pas. C'est drôle parce que c'est la deuxième fois que je me fais demander ça, comment je I come up with these images, genre. Mais je sais pas comment répondre. C'est dur à répondre parce que je pense que c'est vraiment où la réponse sonne vraiment niaiseuse et vraiment pas utile, mais comme ça vient un peu tout seul, genre c'est vraiment comme mon dessin est vraiment lié à mes émotions, puis je pense que c'est juste... Là, c'est comme, j'ai l'impression que ça veut rien dire ce que je veux dire, mais c'est comme j'illustre comment je me sens.
Oui, mais en fait, de réussir à connecter dans le fond avec ton cadre émotif, puis de dire bon, OK, je me sentais comme ça, puis de laisser aller le dessin pour essayer de. Mais est-ce qu'il faut que tu te remettes un peu dans cet état-là, dans ce sentiment-là, pour réussir à amener ton trait à ou c'est plus l'interprétation que tu fais de l'émotion que tu avais à l'époque avec un peu de recul, puis OK, tu te lances instinctivement ou?
Je te dirais, c'est plus avec du recul, puis je me lance instinctivement, juste parce que ben, j'ai jamais essayé de comme, me remettre dans l'état d'esprit dans lequel j'étais, mais je pense que ça serait trop douloureux. Je pense que ça ferait, tu sais, c'est comme un peu un acteur au cinéma, ben, il faut que tu fasses semblant de vivre une émotion et non pas vraiment vivre cette émotion-là, parce qu'à un moment donné, c'est comme tu te retraumatises tout le temps, tu sais, ce que je pense que mon psy serait pas content que je fasse ça. Mais ouais, non, je pense que c'est vraiment comme... Mais je pense aussi peut-être que ça amène un peu de la maturité, I guess, à mes images, que c'est je vais regarder ces événements-là avec mon point de vue de Héloïse qui a 25 ans, qui a 26 ans, qui a 27 ans, puis je vais essayer de représenter ces images avec beaucoup d'amour, parce que je pense que si je me remettais dans l'état d'esprit de Héloïse qui a 5 ans, qui vient d'apprendre qu'elle est stérile, je pense que ça y aurait beaucoup moins de douceur, puis beaucoup moins d'amour, puis beaucoup moins de genre compréhension, parce que je sais pas, c'est drôle, les humains, on a ce vilain réflexe de sur le moment présent, d'être vraiment dur avec nous-mêmes, mais quand on repense à nous dans le passé, on est genre, ah, oh, quand j'étais ado, c'était tellement difficile, pauvre moi, mais là, on est comme tellement dur avec nous-mêmes tout le temps, sauf, en tout cas, c'est un truc qui m'énerve.
J'aime bien, en fait, l'idée d'enveloppant, l'idée de douceur, parce que toutes tes couleurs, c'est beaucoup des tons de rose. Je veux dire, c'est un album qui est aussi, je dirais, qui est joyeux de façon générale, nonobstant des moments où l'émotion est plus dense, mais reste que ce qui en ressort, c'est de la joie, c'est du bien-être. Puis il y a une douceur dans ta palette, justement, de t'orienter à fond sur le rose, et de l'assumer, ça, partout, ça amène cette douceur-là, je trouve.
Merci. Ben, je pense. Je sais pas. Je pense que le sexe, ça peut juste être un sujet tellement douloureux, puis tellement... Juste, ben c'est ça, juste tellement douloureux et genre déchirant que je pense que c'était vraiment important pour moi de comme parler avec vraiment beaucoup d'humour, puis de beaucoup souligner les absurdités autour de la sexualité, puis de c'est un peu comme n'importe quoi, puis on s'invente des règles qui sont donc sérieuses, puis donc importantes, mais que comme si tu les brises, c'est pas tant grave, puis genre tu vas pas mourir, genre. Fait que je pense que c'était juste important pour moi d'en parler avec l'humour, puis c'est juste, moi je pense aussi, l'humour c'est comme tellement puissant comme outil de communication que pour moi c'est impossible de pas utiliser l'humour dans mon travail, tu sais, surtout quand je parle de sujet vraiment difficile. Ça rend, c'est un lubrifiant, là, comme ça fait que tout passe mieux. Puis aussi jouer avec un peu les roller coasters d'émotions, d'aller que. Ben, tu sais, un peu comme tu as dit tantôt, que c'est genre, ah, là, je parle de mon enfance comme un peu triste avec mon père, que je me sens comme un peu abandonnée. Puis c'est comme, haha, on va à des jams, je grind des gars, c'est absurde, c'est drôle. Puis là, c'est un peu comme mon premier French qui est dégueulasse. Puis là, c'est genre, c'est drôle, c'est drôle, c'est drôle. Puis là, paf, j'apprends que je suis stérile, je suis. Puis là, c'est comme le premier vrai moment où mon personnage est vraiment triste aussi, pas juste comme le narrateur, en tout cas, que tu vois que c'est comme mon premier gros traumatisme en lien avec ma sexualité. Puis pas longtemps après, ça revient tout de suite dans le positif. Tu sais, la page d'après où c'est genre, j'explique un peu plus le côté médical, puis c'est genre, ah, j'avais pas eu mes règles, puis là, j'ai eu mes règles, puis là, c'était weird dans mes règles, puis c'est comme les jokes de règles. Puis là, je sais pas, je trouve que c'est puissant... C'est la technique Oreo. Fait que c'est positif, négatif, ensuite du positif. Fait que je trouve que ça passe, ça fait le négatif passe mieux.
Puis avec des temps d'arrêt, dans le fond, tu te laisses des pages blanches, ouais. Tu laisses ton lecteur respirer puis absorber, j'ai l'impression. C'est sans nécessairement dire que, ah, OK, c'est orienté en chapitre, mais d'un point de vue émotif, ton roller coaster, quand tu nous fais vivre quelque chose, après ça, tu nous laisses le temps de l'absorber. On a 2-3 pages, on se calme, on s'assit. Après ça, on en reprend, tu sais, on retrouve les pages, une petite illustration, puis après ça, ça reprend.
Oui. Puis ça, en fait, c'est drôle, c'est une de mes amies qui ne lit pas du tout de BD, puis je l'ai obligée à lire mon manuscrit pour qu'elle me donne des conseils. Puis ça, c'est un des conseils qu'elle m'a donné, puis elle était genre, ah, oh, mais je suis qui, genre, je connais pas la BD. Moi, j'ai étudié en médecine, genre, je connais rien. Je suis qui pour te donner, genre, des critiques? Puis je l'ai vraiment comme poussée à me critiquer, parce que moi, je trouve les gens qui connaissent rien de la BD ou qui connaissent rien de l'art, c'est les meilleurs critiques. Puis c'est elle qui m'a dit, ouais, mais je t'avoue que des fois, je pense que j'aurais... ça serait nice d'avoir des moments comme un peu pour respirer parce que ça va tellement vite. Puis les histoires aussi vont vite, l'âge bouge vite. Je pense l'histoire où je prends le plus de temps à en parler, c'est entre moi puis mon ex. Puis même là, je pense que c'est genre 5 pages. Là, genre, c'est vraiment pas long. Puis je pense que c'est un conseil ou une critique que je me suis fait donner qui a vraiment élevé mon livre à un autre niveau meilleur. Puis comme tu as dit, c'est ça, chaque page de chapitre, il y a comme une illustration symbolique que moi, je trouvais symbolique pour le chapitre qui s'en vient, genre. Ouais.
Mais pour fermer sur le rose, que je pense qu'on a vraiment une grande parenthèse. Si je reviens à la question de couleur, tu sais, c'est juste... Non, c'est parfait, mais en fait, c'est la séquence, la façon dont tu l'as construit, celle où tu apprends que tu es stérile. Oui. Si on creuse un peu, donc dans le fond, tu as vraiment le langage est parlé. Éventuellement, dans le fond, tu apprends la nouvelle, tu es sous le choc, il n'y a plus rien qui suit, donc la parole devient des gribouillis essentiellement. Ouais. Puis ces gribouillis-là, à la dernière page de cette séquence-là, puis du roller coaster dont on parlait, mais là, tu es tout seul au milieu de la page. On voit simplement tes contours, il n'y a plus de détails, et tu es à l'intérieur d'un gribouillis. Donc, toi, en rose foncé, les contours, rose pâle, le gribouillis. Je veux dire, la même image en gris, tu es dans une autre émotion complètement, tu es dans un autre tellement rendu, vrai, je veux ouais. dire. Tandis que là, on dirait que c'est comme... J'aimais l'image que tu amenais du câlin que tu fais, puis que tu fais littéralement plus tard aussi, dans la mesure où on dirait que tu t'enveloppes quand même de quelque chose de plus doux que si tu y avais été à fond dans le noir et blanc ou dans des couleurs plus intenses, on peut dire.
C'est drôle, mais c'est tellement vrai ce que tu dis. C'est niaiseux, j'y avais jamais pensé à ça. C'est comme, j'ai commencé à dessiner ma BD, puis je sais pas, comme instinctivement, je l'ai faite en couleur. J'ai fait les lignes en bleu, puis tout le remplissage en rose. Mais c'est tellement vrai, je sais pas, c'est tellement un bon point, je trouve, que tu soulignes que c'est vrai que ça amène beaucoup de douceur au dessin, puis peut-être que ça rend ça moins difficile à regarder ou à lire, tu sais, de les moments, tu sais, par exemple, il y a une scène où c'est comme, je parle de relations abusives vraiment rapidement, puis là, t'as comme mon personnage qui se fait digérer par un bonhomme. Puis j'avoue, tu sais, si je pense à cette page-là, si à la place d'avoir été en bleu puis en rose, que ce soit noir et gris, puis t'as juste le petit bonhomme digéré, je pense que ça aurait été beaucoup plus violent. Puis peut-être...
Puis déjà que ça l'est violent quand même, cette séquence-là oui, aussi. Ça, c'est, puis ce bout-là est... En fait, ce bout-là, pour moi, c'est celui qui est le plus peut-être un peu troublant, mais surtout dans la conclusion que t'en viens, je pense, avant ou après... où tu dis, tu sais, finalement, que tu te rends compte que ça marche bien avec tel conjoint parce que lui t'écoute, parce qu'il y a une connexion puis une écoute mutuelle. Puis tu dis, mais oui, mais toutes les autres avant ne le faisaient pas. Puis c'est comme, effectivement, c'est vraiment, c'est triste, c'est profondément triste au bout du compte. T'sais.
Vraiment, vraiment. Mais, ouais, je sais pas, c'est. Je sais pas, it is what it is. Mais je pense, oui. pense pas que c'est un problème d'homme, l'écoute. Peut-être. Un peu plus qu'un problème de femme, mais je pense que c'est un problème de personne en général. Les gens sont pas bons pour écouter. Puis je pense, tu sais, aussi ce que je parle dans ce passage-là où je parle d'abus, que c'est comme en gros... Puis je pense que pour moi, ça a été le moment le plus que j'ai trouvé le plus difficile pour écrire le texte, où c'était comme parler dans le fond, parce que ça faisait pas longtemps que j'avais eu cette réflexion-là, fait que je pense que ça m'a fait beaucoup de peine à écrire, mais c'est que dans le fond, les abuseurs, moi, ce que j'ai trouvé le plus difficile de dealer avec un abuseur, puis même que j'ai dealé avec une question de jour, là. Ça n'a pas été une relation qui a duré des années, là. Mais ça m'a quand même profondément marqué, cette relation-là, puis c'est que j'ai réalisé que lui, il n'était même pas conscient de l'abus qu'il m'avait fait vivre, puis de la douleur qu'il m'avait fait vivre, puis pour lui, c'est comme, je ne sais même pas s'il se rappelle de ce qui est arrivé. Je ne sais même pas si... Tu sais, lui, c'est comme... Même pas un bump in the road, là. Puis je pense que c'est ça, moi, que j'ai trouvé le plus choquant et le plus difficile. Et donc, ce qui a été, je pense, le plus difficile à écrire. Puis surtout que moi, je pense, je suis très chanceuse. J'ai été extrêmement chanceuse dans mes relations que j'ai jamais... C'est ça, été comme en amour avec quelqu'un d'abusif ou dans une relation très longue avec quelqu'un d'abusif. Fait que je voulais faire très attention en parlant de ce passage-là parce que je pense que c'est vraiment facile là, de dire les mauvaises choses en parlant de ça. Puis justement, en ce moment, je suis en train de travailler sur le deuxième tome qui raconte l'histoire de la... Dans le fond, le deuxième tome, c'est genre la même recette que le premier, mais ça raconte l'histoire d'une femme différente. Puis même affaire, c'est tout autobiographique. Tout est vrai, tous les personnages existent, tout ça. Mais dans ce livre-là, il y a une relation abusive avec un pervers narcissique qui a duré 5 ans. Ouais. Fait que, moi, genre, là, je suis en train en plus d'écrire ce bout-là, puis c'est vraiment difficile. Puis c'est vraiment difficile, non seulement parce que moi, je suis vraiment pas une experte là, dans ces relations. Évidemment, je fais beaucoup de recherches, puis je suis vraiment beaucoup en communication avec ma cousine, que c'est sur elle que j'ai écrit deuxième tome, mais je pense que c'est aussi. J'ai peur d'écrire les mauvaises choses. J'ai peur parce que c'est tellement nuancé, là, ces relations-là. Par exemple, elle, un truc qu'elle trouvait qui pouvait être pertinent de parler, c'est que ce gars-là, elle a vraiment été en amour avec lui. Qu'il y avait, malgré tout l'abus, puis malgré toute la souffrance qu'il lui a fait subir, il y avait du vrai love entre les deux. Mais là, c'est vraiment dur d'écrire ça parce que je veux pas... On va dire qu'il y a une femme qui est dans une relation abusive, qui lit ça. Je veux pas qu'elle se sente validée dans sa relation en lisant. Tu sais, c'est juste... Je pense que c'est ça que je trouve vraiment difficile. Je pense que c'est vraiment important de parler d'abus, mais je pense que c'est juste qu'il faut faire hyper attention avec le vocabulaire qu'on utilise. Et aussi, je veux faire vraiment attention de pas un peu créer un spectacle de... comme du misery theater.
Oui, du pathos excessif, puis tout. Ouais. Que ça soit du misérabilisme ou du conte.
Genre, tu sais, où c'est vraiment juste, on voit une femme souffrir, puis c'est comme, hey, il y en a assez là, de ça out there. Là. J'ai, genre, surtout dans les médias, genre dans les films ou à la télé, ou whatever, c'est juste des femmes qui sont torturées pendant 60 minutes. En tout cas, fait que, ouais, avec ça.
Oui, puis tu trouves une façon de l'imager, tu sais, un peu autant dans le contexte de ton histoire plus courte, dans le fond, comme tu dis, qui est quand même dans le contexte où Confession d'une femme normale, ça reste une suite aussi d'anecdotes au bout du compte, d'histoires qui s'intègrent un peu thématiquement, celle-là. Mais un peu mise au côté d'une autre histoire où tu te fais droguer aussi, ben, je veux dire, ça met de l'avant le côté, la péril aussi de la quête, les périls de la quête relationnelle. Tu peux tomber sur des gens toxiques, tu peux tomber sur des gens dangereux, sur des situations dangereuses. Et le défi encore là, c'est un peu comme dans l'autre, de nous faire ressentir comment tu te sentais. Et ça, dans le fond, le recul devenait peut-être un peu nécessaire parce que, au bout de compte, l'image qu'on décrit, c'est par après, dans le fond, temporellement. Tu as vécu cette relation-là, tu nous l'as raconté, puis là, finalement, tu recroises le gars X temps après, et c'est là que tout le reste se remonte, et c'est là que tu prends compte, que tu réalises aussi ce qui t'a fait. Puis après ça, comment nous le faire comprendre, comment nous le faire ressentir. Ouais. Deux illustrations pleines pages, et t'en fais pas des tonnes d'illustrations pleines pages dans le récit, mais on dirait que là, c'était une parenthèse nécessaire pour qu'on s'engouffre un peu avec toi dans ces souvenirs un peu plus rough, là, si on peut dire.
Ouais. C'est vrai que mes grosses illustrations, c'est dans les moments émotifs, les plus émotifs du livre. Genre, il y a elle, quand j'avance, je suis stérile, elle dans la relation abusive et elle où est-ce que... c'est tellement absurde à dire. Elle où je reçois de l'amour oral de mon ex dehors. Puis je pense que c'est les seules 3 illustrations pleines pages que je fais. Ce qui est quand même sweet parce que la dernière est super positive. Et moi, je trouve que c'est comme une des plus belles pages de mon livre. Mon ex est d'accord. Lui aussi, il aime beaucoup cette page-là. Il la trouve vraiment drôle et belle. Mais
oui, parce qu'on axe beaucoup, en fait, sur les aspects plus sombres, plus négatifs. On dirait que c'est ceux qui sont imposés naturellement parce que peut-être émotivement, ça nous dressure peut-être un peu plus. Mais à travers ça, il y a plein d'éléments possibles parce que c'est un récit de honte, mais... de confronter sa honte, de comprendre sa honte. Tu le disais d'entrée de jeu, il y a un côté empowering aussi là-dedans.
Vraiment.
Puis, je donne un exemple, mais encore là, c'est dans le registre des sources qu'on creuse, mais le bout où tu te rends compte, où tu dis, puis c'est clair que la pornographie va teinter, dans le fond, notre regard sur la sexualité. C'est clair qu'à un certain point, dans le fond, il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver dépendants à certaines images, certains visuels, à la pornographie, dans le fond, pour atteindre l'orgasme. Et qu'à un moment donné, ben, ton avatar, dans le livre, dans le fond, réussit à se masturber jusqu'à l'orgasme sans pornographie. Là, c'est comme la victoire. Là, tu
marches dans le triomphe. Comme...
Yeah, tu sais. Mais c'est super empowering, dans le fond, tu sais, justement, pour le personnage. Mais on le comprend, on le reçoit comme ça aussi, là, subitement. on comprend l'impact sur ta confiance, puis ça change un peu même, ça donne du poids à l'image par après où tu marches dans le parc, c'est comme « yeah », tu sais.
Moi, c'est ça, c'est genre, je suis tellement puissante. Mais je sais pas, c'est drôle. Moi, ça, c'est un truc que je m'attendais pas de mon livre, mais je pense de... Puis j'ai comme remarqué dans toutes les conférences et beaucoup d'interviews que j'ai fait que je pensais pas que le bout où je parle de pornographie allait avoir autant d'impact sur les gens, parce que je pense que c'est vraiment plate pour moi, là, mais la pornographie a juste tellement joué un rôle toute ma vie dans ma sexualité que pour moi, c'est comme pas spécial d'en parler ou c'est pas hors du commun d'en parler, mais il y a beaucoup, genre c'est vraiment une discussion qui est revenue beaucoup, puis ça, je m'attendais pas à ça du tout, puis c'est juste à quel point la pornographie, genre c'est un problème moderne de sexe, là, que... Puis peut-être qu'on en a parlé beaucoup parce que c'est peut-être moins parlé pour des femmes, que c'est plus les hommes qui sont affectés. Peut-être aussi parce que les femmes qui sont affectées vont moins en parler parce que c'est hyper, genre, tabou. Mais plus vraiment maintenant, j'ai l'impression, mais comme c'est plus tabou pour une femme de parler ouvertement qu'elle regarde la pornographie qu'un homme, mais tu sais, c'est juste à quel point. Puis moi... mes parents ne parlaient pas de sexe. Je suis allée à une école catholique religieuse où ils ont pas. On a eu une éducation sexuelle, mais vraiment terrible. Fait que j'ai eu mon éducation sexuelle par la pornographie, ce qui est la pire idée du monde. Puis surtout de la pornographie, genre, tu sais, pas de la pornographie produite par genre des petites compagnies de porn locales, éthiques, consentement, non, par genre Pornhub, genre le Monsanto de la porn, là, où c'est, genre, violent, puis genre, tu sais, c'est juste, c'est pas de la pornographie faite pour les hommes, genre, en tout cas, c'est juste la pire chose. Quand j'étais vraiment jeune aussi, ça m'a juste, tu sais, je pense, après ça, la suite du livre kind of makes sense, que je suis toute mêlée dans qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est pas normal, puis c'est juste la pire idée.
Oui, puis c'est donné, en fait, le ton est donné au début, parce que, tu sais, vous pouvez pas, ça arrive, en fait, puis on divulgage joyeusement, mais je fais la parenthèse pour dire, on divulgage, mais lisez le livre, c'est meilleur dans le livre que de la façon dont on le raconte, là, lisez-le. Mais, sans divulgager, tu arrives au début, justement, où, je pense, que tu nous racontes la première fois où tu as eu des palpitations, tu dis, OK, oui. Je ressens quelque chose dans le poupou en regardant une scène un peu plus torride avec tes parents. Ça lâchait un malaise, personne n'en parlait. Puis là, oups, OK, on embarque. C'est à ce moment-là que l'idée de la pornographie embarque un peu dans le récit. Puis l'autre élément, l'émancipation de ça, arrive beaucoup plus tard, beaucoup plus loin. Donc, nécessairement, ça a teinté un peu le parcours puis le chemin par lequel t'as avancé jusqu'à arriver à un point où tu t'es rendu compte que finalement, tu es capable de reprendre le pouvoir sur cette dépendance-là, au final.
Oui, je pense, le truc, c'est, je pense, un des points négatifs de mon livre, c'est que je voulais, évidemment, c'est au final, c'est un récit, fait qu'il faut qu'il y ait, tu sais, le premier acte, deuxième acte, troisième acte, tu sais, il faut qu'il y ait comme une fin, mais veux pas, ça raconte ma vie qui n'a pas d'acte et qui n'a pas de sens, qui n'a pas de leçon à la fin, tu sais, c'est comme, tu sais, ma vie, elle continue après que le livre soit terminé, puis je pense que c'est normal. Je pense pas que c'est un point négatif. Là. C'est pas une bonne manière de le dire, mais c'est juste... je pense qu'un des défauts de mon livre, c'est que je parle de ma honte un peu comme si je triomphais et que c'était un problème réglé. Et que c'est genre, ah, la porn, j'ai réussi à masturber une fois sans porn. Let's go, c'est réglé, j'ai triomphé ce problème. Alors que... Tu sais, c'est une addiction comme les autres, là, où c'est comme tu vas relapse, puis tu vas retomber dans tes vieux patterns, puis comme, tu sais, c'est juste... Puis même en face, la porn, c'est un des exemples, mais tu sais, il y a plein d'autres sujets où c'est comme, tu sais, tantôt, j'ai touché un peu de l'herpès, que comme, tu sais, oui, dans mon livre, j'en parle comme, ah, oh, je l'ai full accepté, ça fait partie de moi, et c'est pas grave, et comme, je sais que je suis vraiment pas seule, mais genre, ça reste que comme... Je parle à monsieur, à madame, tout le monde, puis je suis comme, haha, je drop que j'ai l'herpès. Les gens vont être comme, arc, c'est dégueulasse, genre. Tu sais, c'est
ouais, juste. Parfait. Ben, ça revient à ce qu'on disait au départ. Dans le fond, ça reste un livre avec une version fictionnelle de toi, mais tu sais, le fictionnel peut amener aussi à dire ben, Il y a des résolutions qui peuvent nous laisser l'impression que, mais que finalement, elle ne veut pas amener, c'est ça, après 140, 150 pages, il faut que l'histoire se finisse. Oui. Il y a des éléments qui ont été résolus, mais on comprend qu'il y a des choses que c'est une reconstruction ou c'est une construction, puis que, je veux dire, on se construit tout le temps aussi, de toute façon. Ouais. Fait que je pense que l'aspect relationnel, c'est, on peut comprendre que ta conclusion, sans complètement la divulgâcher non plus, mais qu'il y a une compassion que tu montres envers ton histoire, puis que ça va t'amener à continuer à avancer ouais. par la suite. Mais c'est clair que si tout n'est pas réglé, c'est pas un conte de fées non plus, là, tu sais.
Ouais, mais je pense que j'ai choisi de le faire comme ça parce que pour que ce soit comme le plus... C'est quoi empowering en français?
Je sais pas, c'est pour ça que j'utilise en anglais depuis tantôt.
Genre, de se sentir puissant, je pense ouais. que c'est la manière dont je me sentais le plus puissante ou le plus comme... que je possède ma propre destinée ou que je suis maître de ma propre destinée. Fait que j'ai choisi de le montrer comme ça, peut-être avec un peu moins de nuances qui sont présentes dans ma vraie vie. Mais ouais, je pense pour ça, j'en ai parlé de même. Ouais.
Et au niveau visuel, en fait, aussi, on n'en a pas parlé au-delà du rose, mais dans le fond, je choisis d'aller avec des personnages qui ont un style quand même réaliste, mais... pour lequel j'ai l'impression que tu as beaucoup misé sur le côté expressif, dans le fond. Tu parlais d'humour tantôt, mais je pense que l'humour va beaucoup passer par les expressions. Mais les postures des personnages sont très animées un peu de cette façon-là. J'imagine aussi, ben, justement, quand on aborde une thématique, quand tu te montres en train de chevaucher sur un pénis en route vers un vagin dans une relation consensuelle, ben, veux pas, ça reste quand même, justement, on s'amuse avec le côté absurde, le côté humoristique de ça. Donc, nécessairement, pour toi, un dessin plus semi-réaliste que réaliste s'imposait, ou c'est vraiment en continuité aussi avec le style de dessin que tu faisais avant, peu importe le sujet, puis c'est comme ça qu'Héloïse Marseille dessine?
C'est beaucoup c'est vraiment le style de cette BD-là, c'est vraiment le style où je suis le plus confortable à faire. Et moi, je suis une personne que la quête finale de ma vie, c'est d'avoir du fun. Alors, je veux avoir le plus de fun possible en dessinant. Fait que je pense que ça vient beaucoup de là aussi. Tu sais, t'as parlé de... que les bonhommes sont toujours dans des positions très dynamiques. C'est vraiment... Honnêtement, c'est niaiseux là, comme explication, mais c'est le plus le fun à dessiner. C'est pas mal plus fun dessiner un personnage genre qui court d'une manière drôle que de le faire juste debout, les bras de chaque côté du corps. Puis c'est juste... Je pense aussi, c'est très... ça fait... C'est drôle parce que j'y pense plus vraiment, parce que je dessine... Je me rappelle pas un moment de ma vie où je ne dessinais pas. Mais je pense que c'est quasiment un réflexe pour moi maintenant d'utiliser le body language beaucoup de mes personnages pour, tu sais, une image vaut mille mots, fait que genre de l'utiliser pour m'aider aussi dans ma narration puis tout ça. Puis je suis vraiment pas la seule à le faire, là. Genre je suis pas en train de dire que je suis comme un génie du dessin, mais tu sais, c'est juste que c'est vraiment un outil qui fonctionne hyper bien, non seulement pour l'humour, mais pour, tu sais, quand il y a des non-dits ou tu sais... que tu as une conversation des personnages, puis il y a un personnage qui sait exactement comment il se sent, ou il va dire quelque chose, mais tu vois exactement qu'il se sent complètement l'opposé, juste à cause de comment il se tient debout, ou à cause de... grâce à l'expression sur son visage. Fait que tu sais, c'est juste... c'est fun, et c'est très utile de dessiner des personnages expressifs. Puis en fait, je pense... J'aime ça dans les BD où c'est très, très, très réaliste. J'ai l'impression que le plus gros challenge des dessinateurs, c'est justement de mettre vraiment beaucoup d'émotions. Puis des fois, ça a l'air un peu robotique plus ou un peu... C'est beaucoup plus dans le texte. J'ai l'impression que tu vas chercher les contextes puis les expressions des personnages que dans le dessin.
Puis j'ai l'impression qu'avec le sujet aussi, puis ça donne un peu un recul aussi par rapport à la thématique. Il y a des scènes là-dedans qui sont drôles, mais que la même scène dessinée avec de façon plus sérieuse ou plus réaliste, justement, ouais. aurait changé le scope. Puis, ouais. Parce que veux pas, il y a des pages où c'est quand même, je veux dire, tu fais l'amour là-dedans, différentes ouais. approches, il y a des baisers, il y a des trucs. Mais on évite aussi tout l'aspect coquin de la chose. C'est complètement évacué. On n'est pas dans un récit qui va tomber ou qui va toucher de près ou de loin l'érotisme. Puis la question se pose même pas. Et c'est une façon aussi de la tasser complètement sur le côté. Là.
Mais tu sais, c'est drôle, mais c'est un livre qui parle presque exclusivement de sexe, mais je pense que j'ai illustré dans le livre, il y a trois scènes de sexe qui sont explicitement, ou même oui. explicitement illustrées, il y en a, ouais, je pense qu'il y en a trois. Fait que, sais, pour 150 pages, puis...
C'est pas énorme.
C'est toute une page. Fait qu'il y a trois pages où il y a explicitement des relations sexuelles. Fait que, tu sais, je pense, t'as raison, que je suis allée beaucoup plus dans les... Parce que, je sais pas, je pense que c'est plus fun, comme t'as dit l'image tantôt, c'est plus fun de dessiner un bonhomme, tu sais, à la place de montrer un bonhomme qui a un orgasme, de montrer un bonhomme qui descend sur une glissade en forme de pénis vers un vagin, c'est quand même plus drôle et plus fun à dessiner. Puis aussi, dessiner des gens qui font l'amour et que ça n'a pas l'air super weird et genre, c'est dur de dessiner des personnages qui font l'amour. Genre, des fois, j'ai l'impression, j'ai déjà essayé là, d'en dessiner, genre, puis on dirait que c'est juste, genre, quelqu'un qui est debout derrière quelqu'un d'autre ou juste deux bonhommes couchés un par-dessus l'autre. Genre, tu sens pas le contact, genre. Fait que je pense peut-être aussi à cause de ça que je trouvais que c'était visuellement moins intéressant comment moi je dessinais des gens qui faisaient l'amour. Fait que d'aller plus dans les images et des métaphores visuelles.
C'est plus efficace. C'est comme le bout, t'es en amour avec Victor, par exemple. Puis là, ouais. Vous avez des cœurs dans les yeux quand vous regardez. Ouais. Mais je veux dire, en même temps, t'as pas besoin d'en dire plus, on comprend. C'est de trouver la bonne image. Une fois que la bonne image est trouvée, je veux dire, c'est complet. C'est ce qui fait la force de la bande dessinée aussi.
Je suis bien d'accord.
Et dans ça, la mise en page, d'ailleurs, pour ceux qui vont feuilleter le livre, mon mari, c'est quand même très, très éclaté. Dans le fond, tu n'es pas imposé de gaufrier non plus, de structure hyper précise. Et au contraire, il y a une multiplicité d'outils. Je pense que j'avais fait à Manon un inventaire juste dans les premières pages où tu lisais des cases avec des fonds de couleur, des cases avec pas de fond, des cases centrées pour donner un peu plus d'importance. À un moment donné, OK, il y a des mots qui apparaissent à nuages. Après ça, un peu plus loin, tu vulgarises avec des dessins où il y a plein de procédés. Puis là, je me disais, mon Dieu, est-ce qu'on est vraiment encore là dans l'instinct, dans la spontanéité, dans le travail, ou est-ce que c'est comme tu as fait l'exercice en à côté de te demander comment tu allais représenter chaque chose? Parce que je veux dire, c'est. Ça peut aller dans deux sens, mais ça reste quand même de la job de réussir à trouver à chaque deux, trois cases, enfin, une nouvelle manière d'amener telle affaire, tel sujet, tel autre truc, puis de sortir plein d'outils.
Mais pour faire cette BD-là, je suis vraiment allée avec mon instinct, de juste trust my gut. Mais je pense que j'ai le bon background pour avoir fait ça. Genre, moi, je lis de la BD depuis toujours, puis j'en dessine. Genre, moi, au secondaire, dès qu'on me donnait une feuille, dès qu'un prof me donnait une feuille, partout où il n'y avait pas de texte, il y avait des BD, puis des BD pas de cases. Des fois, genre, je faisais juste des pages, de juste plein de bonhommes, pas de bulles, pas de texte, mais c'était genre, je m'inventais une histoire dans ma tête, puis je dessinais les bonhommes en classe, ça faisait passer le temps plus vite. Puis c'est juste, mon père, c'est un fan fini de bande dessinée depuis que je suis petite, donc j'en lis depuis toujours. J'ai eu un cours extraordinaire à Concordia de bande dessinée de un an qui m'a vraiment aidé. J'ai pris un autre cours où on lisait, à place de produire la bande dessinée, on en lisait beaucoup. Fait que je pense que c'est juste... Mais c'est comme n'importe quoi. Ça vient à un moment donné quand on a assez bouffé de la BD ou que t'en as assez fait, ça vient un peu tout seul, ces réflexes-là. T'as pas vraiment besoin de réfléchir. Fait que, t'sais, mais honnêtement, je pense que... si j'avais à la refaire, cette BD-là, parce que ça, j'ai pas fait de découpage avant de la faire. J'ai vraiment juste commencé à dessiner direct au propre. Et je pense que ça aurait pu être pas mal meilleur si j'avais fait du découpage. Mais to be fair, moi, je pensais pas que ça allait être publié. Fait que c'était un exercice. Fait que to be fair, moi, c'est mon excuse de pourquoi j'en ai pas fait, mais...
Si on s'ouvre à des excuses interprétatives aussi là-dessus, tu pourrais dire que si tu avais eu l'option justement de faire ton découpage... Subitement, ouais. Tu aurais peut-être eu un recul, puis tu aurais gagné peut-être en précision, mais tu aurais peut-être perdu en spontanéité. Parce qu'à ouais. Un moment donné, tu finis par te relire, l'autocensure pourrait revenir sur oh, finalement.
Peut-être, c'est vrai. Mais en même temps, moi, je suis pas bonne pour m'autocensurer. Fait que je sais pas. Je pense pas. Je pense que ça aurait peut-être pu. Parce que des fois, quand je le relis, tu sais, je suis profondément fière de ce livre-là. Et je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Mais moi, je trouve ça correct. Genre, tu sais, comme quand je le relis, puis c'est aussi comment je l'ai dessiné, ça n'a pas de bon sens. Genre, je l'ai tellement fait de manière décousue. Mes chapitres, je ne les ai pas dessinés en ordre, je ne les ai pas écrits en ordre, puis genre, j'ai rajouté à la fin, quand j'avais fini d'écrire, j'ai rajouté un chapitre au début qui n'existait pas. Fait que tu sais, c'est juste, je pense que si j'avais travaillé de manière plus en ordre, je pense que ça aurait été meilleur. Ou aussi bon. Parce que des fois, c'est ça, quand je le relis, des fois, il y a des jokes. Je suis comme, man, si j'avais fait cette joke-là, ça aurait été vraiment bon. Ou il y a des histoires, des fois, que je me rappelle que j'ai pas raconté. Puis je suis comme, fuck, j'aurais dû raconter ça, c'est tellement drôle. Genre, je me suis rappelé de ça récemment, genre, que je pense que ça aurait pu bien fitter avant que, genre, la première fois que je check de la pornographie quand j'avais 12 ans, parce que c'était comme dans la curve de se rendre vers la pornographie. C'est que j'allais sur YouTube, puis je checkais pendant, genre, des heures, des vidéos, c'était juste des filles qui se frenchaient. C'était juste ça. Puis j'étais comme, what the fuck? Genre, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Puis je faisais rien, là, je me masturbais pas, je me touchais pas, j'étais juste assise à mon bureau. Puis je regardais ça, la porte fermée, puis j'étais genre, wow, c'est quoi ça? Puis après ça, j'ai cherché dans Google, à place d'aller sur YouTube, Girls Making Out. Puis là, je suis tombée sur de la pornographie. Puis j'étais genre, what is that? Hein, ça existe des sites de même? Puis tu sais, c'est genre des petits trucs niaiseux de même que je suis comme, ah, ça aurait été drôle. Ou des fois, je trouve que c'est. Là, je me critique full là, en ce moment, mais je pense que des fois, il y a certains petits bouts que je trouve que c'est un peu décousu ou que ça va trop vite, que je pense que ça aurait été. Il y a certains moments que je pense que ça aurait été nice que je prenne plus mon temps à raconter l'histoire, mais je suis très fière. Je l'aime beaucoup, 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 ce livre. Puis à un moment donné, ça que Luc, mon éditeur, me disait, tu sais, juste avant qu'on le publie, j'y parlais de ça, je disais exactement ça. Puis il m'a dit, ben, on n'est pas obligé de le publier tout de suite. Hein? Si tu veux tout recommencer, puis refaire, on peut le faire. Puis j'étais genre, ben non, à un moment donné, ça fait 3 ans que je travaille sur ce livre-là, il faut que je m'ouvre en, là, genre, je vais devenir folle si je fais juste travailler sur ça jusqu'à ce que ce soit parfait. Là. Fait que je pense que je l'aime beaucoup. Je suis très fière.
Oui, c'est, à un moment donné, faut choisir de s'émanciper, de laisser aller, parce qu'effectivement, ça pourrait être inlassable un peu les corrections ou ces éléments comme ça. Surtout si tu dis après 3 ans, je veux dire, à un moment
Pas la
donné, tu as
même chose.
envie de passer à autre chose ou de creuser autre chose, ou tu as été jusqu'au bout aussi de, j'imagine, dans le processus d'écriture, parce qu'il doit avoir un côté thérapeutique aussi à travers tout ça,
Vraiment.
de verbaliser ça. Ben, à un moment donné, tu l'as fait ça, donc là, tu es rendu à le lancer.
Vraiment, ça me fait profondément du bien d'écrire ce livre-là. Ça m'a. C'était pas. Puis étonnamment, c'était pas tant dur émotionnellement. J'aurais cru que ça le soit pas mal plus, mais en fait, moi, ça m'a juste vraiment fait du bien à écrire. Puis c'est un peu comme toutes ces histoires-là, j'avais tellement de pouvoir sur moi dans le passé. Et genre, j'avais tellement honte. Puis quasiment j'ai eu comme ce feeling-là de genre que je les publie, sont plus à moi. Ça m'appartient plus. C'est plus de mes affaires, ces histoires-là. They're not mine anymore. Fait que c'est comme si je les avais flushées aux toilettes, puis que c'est plus de mes affaires. Puis ça fait tellement du bien. Puis je sais pas pourquoi je le vois de même. Ça a juste toujours été ça, mais que c'est genre, c'est plus à moi. C'est fini.
Au final, Héloïse Marseille, dans le fond, on parle de confession d'une femme normale. J'imagine, en fait, puis on revient peut-être au titre qui donne aussi la clé de lecture de tout ça. Dans le fond, c'est l'histoire d'une femme normale. C'est l'idée,
Exact.
justement, de un appel, un peu à ce qu'on disait au départ, à libérer la parole face à la sexualité, à se décomplexer de nos tabous, parce que c'est normal, au final, d'en
Exact.
avoir.
Exactement. On se sent toutes anormales, mais c'est normal. Puis on est toutes normales au final.
Et c'est un peu, dans le fond, tu disais, là, tu poursuis un peu la démarche, mais avec une autre femme, une autre perspective, mais tu restes un peu, il y a un intérêt à aller creuser ce pan-là à travers la bande dessinée, dans le fond, de creuser un peu la dynamique un peu de la sexualité,
Ouais.
de la relation avec ça, donc d'en faire un deuxième avec une autre perspective pour venir bonifier un peu le.
Mais je pense que c'est, tu sais, veux pas, j'ai juste, quand j'ai fini ce livre-là, j'avais juste 25 ans. Puis évidemment, moi, j'ai pas tout vécu dans les expériences possibles sexuelles que je trouve qui sont pertinentes à discuter. Et quand j'étais arrivée à Pow Pow avec cette idée-là, de livres. Moi, mon idée initiale, c'était de faire 3 tomes qui racontaient l'histoire de 3 femmes différentes qui suit le thème du titre. Puis que ça serait toutes des confessions d'une femme normale, puis c'est toutes des femmes différentes. Ce sont toutes des expériences différentes, mais elles sont toutes normales dans leurs expériences différentes. Puis là, Fred, la femme dont je suis en train d'écrire le 2e tome sur en ce moment, je trouve qu'elle a des. Elle, son expérience de sa sexualité est complètement différente de la mienne. Puis l'idée directrice est complètement différente de la mienne. Elle, c'est beaucoup une histoire d'apprendre à s'assujettir et d'apprendre à dire oui, d'apprendre à dire non. Puis beaucoup aussi une histoire de... au fond, c'est comme un peu sa découverte du féminisme et aussi son rejet du... c'est quoi le mot que je cherche? De l'approbation masculine, parce qu'elle a toujours grandi où c'était comme... Il faut que tout le monde soit content autour de moi. Il faut que je plaise. Sinon, je n'ai pas le droit d'exister. C'est ce qui est très différent de ce que je parle dans mon livre. C'est que moi, je n'ai jamais vraiment eu... Tu sais, tout le monde veut plaire, mais tu sais, moi, ça ne m'a jamais défini, je pense, dans ma vie comme personne. Puis elle, c'est beaucoup ça. Puis comme j'ai dit tantôt que ça parle d'une histoire d'amour abusive, j'aime pas ça comment je l'ai phrasé, une histoire abusive de 5 ans avec son ex, que je pense que c'est un sujet vraiment important. Puis, je sais pas, elle a des histoires vraiment drôles aussi de quand elle était adolescente, genre vraiment drôle. Moi, déjà, je trouve que c'est plus drôle que mon premier tome.
Mais peut-être on aussi. On pourra le comparer, évidemment, quand ça sera arrivé.
Mais c'est drôle. Une histoire qui n'est pas la mienne, c'est quand même intéressant comme processus créatif. C'est quand même très différent que le premier.
Et d'ici là, ben justement, le premier, lui, il est disponible déjà un certain temps. D'ailleurs, ça s'appelle « Confession d'une femme normale ». C'est d'Héloïse Marseille et c'est du côté des éditions Pow Pow. Héloïse, merci beaucoup.
Un plaisir!
Eh bien, voilà qui conclut cette édition de La vie en BD. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, c'était Raymond Poirier au micro et ça a été un plaisir d'être avec vous.